fait comprendre?
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Donnez-moi la force de comprendre, car
ces visions me semblent. 10h42, Martin Carly, officiellement, ben, rebonjour.
Rebonjour, Mathieu.
Bon, le Yeti, finalement, tu vas nous péter notre ballon, là.
Ouais, c'est la un ours.
Ouais, c'est. OK.
Allez, on dit comme ça. Le Yeti, c'est un ours. Prochain sujet. Ouais, non, non. En fait, on parle ici sûrement d'un des grands mythes.
Oui.
Tu sais, le Yeti, pour inclure tout le monde, on parle de cette créature. On parle d'un primate surdimensionné avec une fourrure épaisse et tout ça. Et on rapporte certaines observations. Donc, certaines personnes depuis plus d'un siècle rapportent
avec ses déclinaisons, là, ça squatch, etc. Là.
Exactement.
Ouais, ça, c'est Chewbacca.
Ah, ouais, ça, c'est Chewbacca, ça. Mais, donc, effectivement, on rapporte certaines observations et on rapportait aussi avoir des échantillons de du Yeti à différents endroits. Par exemple, des chamans au niveau du Tibet avaient ça, des échantillons de poils ou d'os ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que des biologistes se sont intéressés de près à ces échantillons-là parce que des chercheurs de l'université, d'université américaine, ont eu accès à ces échantillons là dans le cadre d'un documentaire sur le Yeti. Donc, en étant consultant sur ce documentaire-là, ils ont pu avoir accès aux échantillons. Donc, ils ont été capables de faire certains tests génétiques sur ces échantillons-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont eu accès à 9 échantillons d'os, de poils et tout ça qu'ils ont trouvé dans des temples auprès de chamans et même dans des musées. Et ils ont aussi... Ils soupçonnaient que c'était peut-être plus des créatures de type ours polaire ou un hybride entre l'ours polaire et l'ours brun qu'on connaît. Donc, okay. un genre d'ours qui était plus natif de la région, mais qui serait plus un hybride d'espèces qu'on connaît de nos jours. Et donc, ils ont fait des tests génétiques sur ces 9 échantillons-là supposément provenant du Yeti ou d'un Yeti, et des échantillons de toutes sortes de sous-espèces d'ours, là, donc pour porter le total à 24 échantillons. Et là, ils sont, en faisant des comparaisons, ils se sont rendus compte essentiellement que pour 8 des 9 échantillons supposément du Yeti, bon, on avait essentiellement de l'ADN, et là, on parle de l'ADN de mitochondries. Les mitochondries, c'est les petites centrales énergétiques dans nos cellules. Donc, okay. Elles ont de l'ADN aussi. Alors, ils se sont rendus compte que cet ADN mitochondrial-là correspondait plus à un ADN d'ours qu'un ADN de autre chose. Donc, dans 8 des 9 cas, cet ADN-là correspondait à de l'ADN d'ours. Et dans l'autre cas, parce que là, des gens vont dire, mais il reste un cas.
Un cas.
Eh bien, on parle d'un chien.
D'un chien?
Oui, absolument. Donc, on avait essentiellement des poils et des os. Ouais, peut-être des poils et des os de chien ou d'ours, essentiellement ici. On pourrait se dire, bon, ben, OK, parfait. Donc, ça nous dit quoi?
Mais si le Yeti a le bagage génétique d'un ours?
Ouais. C'est quoi cette face, là, présentement?
Non, mais je pose la question. Hein. Parce qu'il y a des gens qui vont se la poser.
Oui, oui. Ben, en fait, on pourrait dire, OK, bon, ben, cette étude-là a servi juste à nous dire que le Yeti, c'est probablement pas vrai, ce qu'on soupçonnait tous, bien entendu.
Évidemment.
Quoi qu'au nombre de personnes qui croient que la Terre est plate en 2017, il faut rappeler certaines affaires. Oui, à tout le moins, tous ces échantillons-là ne correspondent pas à une espèce animale qu'on n'a jamais vue, ça, c'est certain. Mais ce qui est intéressant, ici, c'est que les chercheurs ont accès quand même au bagage génétique d'espèces d'ours ou de sous-espèces d'ours qu'on ne connaissait pas et sont capables de les placer dans l'arbre de l'évolution des ours. Donc, ça donne quand même des informations qui sont très utiles par rapport à des espèces d'êtres vivants qu'on connaît bien, mais dont on ne connaît pas très bien toutes les sous-espèces. Une chose est certaine, là, ils vont devoir aller voir l'ADN de ces ours-là pour essayer de les caractériser mieux. Mais l'article en question complète
mais est-ce
de façon...
Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une espèce d'ours disparue ou c'est carrément c'est un ours où on a trouvé des ossements puis on pensait parce que c'était gros que ça pouvait être... ça ne le dit pas pour l'instant.
Ben, en fait, pour le moment, on parle plutôt d'ours d'espèces d'ours comme l'ours noir de l'Himalaya et tout ça. Donc, c'est vraiment des espèces qu'on connaît, mais qu'on a mal caractérisé. Donc, on a vu certaines distinctions entre l'ADN de ces sous-espèces d'ours-là qui étaient surprenantes. Donc, il y a des surprises qui sont sorties de là par rapport à ces ours-là, mais il n'y avait certainement pas de surprise par rapport à un Yeti ou autre être mythique. Là.
Vous connaissez l'impression 3D. On vous dirait qu'on imprime de plus en plus de choses surprenantes. Réponse dans un instant. avec Martin Carly, suite de la chronique scientifique, imprimer des tissus vivants en 3D.
Oui, absolument. Donc, on sait qu'avec l'imprimante 3D, on est capable de faire des choses absolument fabuleuses maintenant. C'est clairement une des grandes innovations technologiques des dernières années. Mais jusqu'à maintenant, on utilisait quoi? On utilisait de la poudre de plastique ou de la poudre de métal, ce qui permettait quand même de fabriquer des choses extrêmement utiles. On parle, par exemple, d'acier très résistant, très solide. On peut même fabriquer des os artificiels, seulement pour donner certains exemples ici. Mais lorsqu'on veut fabriquer des matériaux qui sont biocompatibles, donc on peut carrément insérer dans le corps humain, par exemple, là, c'est un peu moins bon. Là. Le plastique et les poudres de métal, mais on n'est pas super là. Alors là, des chercheurs ont réussi à mettre au point une technique qui permet d'imprimer du tissu vivant biocompatible en 3D en une seule étape.
Mais fait à partir de quoi?
Fait à partir de bactéries, mon cher Mathieu. Et oui.
Okay.
Donc, on est capable
ça se vend en rouleau, ça, la bactérie?
Oui, non, pas nécessairement. Pour le moment, on est vraiment en train de prouver que c'est possible et qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. C'est une nouvelle encre pour imprimante 3D qui s'appelle Flink pour Functional Living Ink. Et essentiellement, c'est donc un matériau qui est à base de bactéries qui va nous donner un résultat qui est même élastique. Et ça, c'est important. Si on veut, par exemple, fabriquer des matériaux pour faciliter une transplantation d'organes ou protéger ou empêcher le rejet de dispositifs comme, je sais pas moi, des pacemakers ou ainsi de suite dans le corps, ainsi de suite, ben, ça nous prend un matériau qui n'est pas rigide, mais qui est plus élastique, de un, et deux, qui est biocompatible. Alors, pour faire tout ça, on va faire quoi? Ben, on réussit simplement à intégrer des bactéries. Et ce qui est le fun ici, c'est qu'on peut intégrer n'importe quelle bactérie qu'on veut. Donc, on va intégrer à cette encre-là la bactérie dont les propriétés nous conviennent pour l'utilisation précise qu'on veut en faire. Okay. Par exemple, si on veut faire un matériau flexible qui va recouvrir des implants mécaniques à l'intérieur du corps, on peut utiliser une bactérie qui produit de la cellulose, donc une fibre végétale. Et donc, ça va nous donner un matériau imprimé en 3D qui sera pas rejeté par le corps, qui aura des propriétés qui nous intéressent. Mais si on voulait, par exemple, plutôt créer un matériau, un biomatériau qui, lui, va dégrader des toxines provenant de l'environnement, mais on pourrait plutôt choisir des bactéries capables de dégrader ces toxines-là. Si on voulait faire de la photosynthèse avec notre biomatériau, on prendrait plutôt des bactéries capables de faire de la photosynthèse. Donc, le choix de la bactérie va dicter essentiellement le type de matériau qu'on peut obtenir. Et résultat, en une seule étape, on est capable d'imprimer en trois dimensions un matériau vivant et qui aura les propriétés qu'on veut. C'est absolument fabuleux.
Parce que sinon, il faut que tu passes par la transplantation ou quoi? Est-ce que ça pourrait être remplacé à la limite de la transplantation carrément?
Ben, ça dépend évidemment des...
C'est sûr que ça n'a pas toutes les fonctions vitales d'un organe.
Exactement, c'est ça, exactement. Mais une chose est certaine, c'est on travaille aussi à imprimer en 3D des organes de remplacement ou ainsi de suite. Donc, tout ça existe déjà. Là, ici, la différence, c'est que c'est la première fois qu'on imprime avec une encre qui est carrément vivante. Et en plus, cette encre change selon le type de bactérie qu'on va choisir. C'est extraordinaire.
Deux nouvelles lettres pour l'ADN.
Oui, il faut savoir que l'ADN est composé de quatre lettres. A, T, C, G. C'est les abréviations pour les quatre bases à base d'azote qui constituent notre ADN. Et avec ces quatre lettres-là, on est capable de coder tous les gènes, donc on est capable de rédiger tous les gènes qui vont nous donner toutes les protéines de notre corps.
Les combinaisons, là.
Exactement. Ces protéines-là sont elles-mêmes composées de blocs de construction qu'on appelle les acides aminés. Donc, le gène nous dit la séquence d'acides aminés qu'on doit assembler pour former une protéine X, Y, Z qui va accomplir telle ou telle fonction. Alors, avec quatre lettres, on est capable de coder pour une vingtaine d'acides aminés, ce qui nous donne un certain nombre de protéines possibles. Eh bien, les chercheurs ont créé ont été capables de modifier des bactéries pour qu'elles puissent accepter deux nouvelles lettres, donc deux nouvelles bases de construction de l'ADN. Elles sont capables, ces bactéries-là, de stocker ces nouvelles lettres-là. Elles sont capables de les passer à leurs filles, donc aux cellules lorsqu'elles se divisent, donc les cellules qui vont suivre par la suite. Et elles sont utiles pour carrément traduire pour de nouvelles protéines. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si on utilise deux bases de plus, on va être capable de coder pas pour 20 acides aminés différents, mais plutôt 152, ce qui permettrait de créer carrément des nouveaux médicaments, des nouveaux matériaux organiques. Vraiment, là, la porte s'ouvre complètement pour créer des choses qui n'existent absolument pas présentement. C'est extraordinaire aussi.
Martin Carly, merci beaucoup.
Ben, bonne semaine, Mathieu.
Il retourne en tournage dès lors.
Oui, ça c'est vrai.
Génial. Salut. Bye-bye. Merci à Fred Perron à la réalisation, François Arnoy à la recherche. On se retrouve demain avec d'autres billets de U2 à vous offrir. Oui. À compter de 7 heures, soyez-y. Bye-bye.